Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine comme tous les samedis entre 12h et 13h, juste après Vibra SOS et la rediffusion le mardi matin, 10h. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur l'antenne de Graphite. Le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Biotine, on va pouvoir feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Alors la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps d'aborder ces articles qui parlaient des Jeux Olympiques. Donc on va en parler aujourd'hui, juste après l'éphéméride de ce 4 mai. Le premier vol en circuit fermé d'un hélicoptère, c'est par Étienne et Michel en 1924. Le 4 mai 1956, c'est le début de l'opération Red Wing. C'est une série de 17 essais nucléaires américains menés aux atolls de Bikini et Deniwetok. C'était donc le 4 mai 1956. Un peu plus récent, en 1986, le 4 mai, c'est l'incident nucléaire à la centrale en Allemagne, centrale THTR 300. Le 4 mai 1986, le réacteur expérimental de 300 MW libère des gaz radioactifs jusqu'à 2 km de distance à la suite d'une action qui visait à dégager une conduite d'alimentation de combustible qui était obstruée. Et cet incident nucléaire, en fait, allait dissimuler tout simplement parce que l'augmentation de la radioactivité ambiante allait être attribuée à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et Tchernobyl, c'était le 26 avril 1986, donc à peu près une semaine avant. Et donc cet incident nucléaire en Allemagne le 4 mai est passé un petit peu inaperçu. L'ordre de cessation de fonction a été donné 2 ans après, en avril 1988. Et enfin, le 4 mai 2000, un virus informatique apparaît et il attaque les internautes du monde entier. C'est le virus I Love You. Alors peut-être que ceux qui ont connu cette année 2000 se souviennent de ce virus I Love You. On en parlait. Alors on parlait juste avant du bug de l'an 2000 qui finalement n'a pas eu lieu. Et donc le 4 mai apparaît ce virus informatique I Love You. C'était en 2000 déjà, il y a 24 ans. Voilà, peut-être que certains s'en souviennent et on se dit toujours dans ces moments-là, oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Naissance le 4 mai 1655 à Padoue de Bartolomeo Cristofori, facteur d'instruments à clavier italien, facteur de clavecin, et de clavicorde. En fait, Bartolomeo Cristofori est généralement considéré comme l'inventeur du piano forte qui évolue après lui pour devenir le piano moderne. Mais là, voilà, nous sommes au XVIIe siècle avec Bartolomeo Cristofori. Et décès le 4 mai 1972 d'Edward Calvin Kendall, chimiste américain, qui a notamment reçu le prix Nobel de médecine en 1950 pour ses découvertes sur les hormones du cortex des glandes surrénales, sur leur structure et leurs effets biologiques. En fait, le travail de Edward Kendall, associé au travail de Thaddeus Reichstein et de Philip Ensch, eh bien, c'est sur les hormones cortico-surrénales. L'idée, c'est d'aboutir à l'isolement de la cortisone. C'était donc, il a reçu le prix Nobel en 1950 et il est donc décédé le 4 mai 1972. Voilà pour l'éphéméride de ce 4 mai sur l'antenne de Graphite. Pour cette émission Biotine, on va donc parler de l'actualité scientifique et il y a plusieurs articles que l'on trouve dans différentes revues scientifiques, des revues de vulgarisation. Hein. Je vous incite à consulter Science et Avenir, Science et Vie, Epsilon, et ça ce sont des revues, on va dire, papier, qui ont leur déclinaison sur des sites internet. Et vous avez aussi des sites internet qui sont très bien faits, qui sont vraiment accessibles pour vous tenir informés de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, et notamment Futura Science, qui est un site vraiment intéressant et dans lequel je pioche pas mal d'informations. Et il y a plusieurs articles, il y a quelques jours, sur les Jeux Olympiques, avec cette question déjà, quelle est la plus grande menace pour les athlètes qui vont se baigner dans la Seine? Oui, parce qu'il paraît qu'on peut se baigner dans la Seine. Et donc, on n'en sait rien du tout. En fait, dans cet article, on parle de Xavier Jones, qui avait peut-être en tête les JO de Paris lorsqu'il s'est lancé dans son projet. Et Netflix a un petit peu le sens du timing, puisque Netflix a révélé que Sous la scène sortirait le 9 juin sur sa plateforme, donc 6 semaines avant les débuts de la compétition des Jeux Olympiques. C'est un film d'horreur français. Et dans ce film, Sophia, qui est une brillante scientifique, qui est interprétée par Bérénice Bejo. Cette brillante scientifique est alertée par un jeune activiste écologiste qu'un grand requin rôde dans les profondeurs du fleuve parisien. Problème, ça arrive un petit peu au pire moment, juste avant les débuts des mondiaux de triathlon, et les eaux de la Seine venaient d'être purifiées. Ça, c'est dans le film. C'est un scénario aux allures de mauvaise blague, car si les probabilités qu'on ait un requin qui remonte le fleuve jusqu'à la capitale, ben, ces probabilités sont quasiment nulles. La mairie de Paris fait actuellement face à sa promesse très ambitieuse de nettoyer justement la Seine, afin que celle-ci puisse accueillir les triathlètes lors des Jeux Olympiques de Paris. Et si la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne se lasse pas de répéter qu'elle nagera bien dans l'eau du fleuve hein, parisien en juillet, il y a même le président Macron qui devrait également y faire trempette, et bien il est probable qu'elle se sente quand même un petit peu très seule ce jour J. Tout simplement en cause, c'est le dernier rapport de l'ONG Surfrider qui pourrait décourager les plus braves d'aller faire trempette à ses côtés. Depuis plus de 6 mois, cette association mesure les concentrations de bactéries, des entérocoques et notamment la bactérie Escherichia coli. Ils font des prélèvements bimensuels sur le tronçon qui doit accueillir les 10 km en nage libre de l'épreuve. C'est entre le pont de l'Alma et le pont Alexandre III. Il ressort que sur ces 14 prélèvements réalisés, aussi bien à la suite de fortes pluies que à la suite de journées ensoleillées, seul un a permis à notre équipe de conclure à une qualité ne serait-ce que satisfaisante de l'eau de la Seine à cet endroit donné. C'est ce que pointe l'ONG dans une lettre ouverte. L'ONG qui dénonce la fermeture d'accès pour prélèvement d'ici quelques semaines et un manque de transparence de la mairie. Alors, si l'eau n'était pas nécessairement clean, on va dire, c'est certain que les requins vont pas s'y aventurer. Bon, passons sur les requins, ça c'est sur Netflix. Mais il y a quand même les athlètes qui pourraient faire trempette. Et cela ne serait pas sans conséquences pour leur santé. Je vous parlais donc des entérocoques, je vous parlais de cette bactérie Escherichia coli, qui sont des agents pathogènes présents lorsqu'il y a contamination fécale. Ils sont connus pour causer des infections gastro-intestinales et des maladies diarrhéiques, et du coup, même aussi des douleurs abdominales, de la fièvre. Donc c'est un peu inquiétant. Ces agents pathogènes peuvent également entraîner des infections urinaires, provoquant notamment des brûlures, des douleurs abdominales et puis une urine trouble et puis quelques douleurs quand on fait pipi. En clair, une exposition prolongée à une eau contaminée peut augmenter le risque d'infection cutanée. Ok, c'est vachement rassurant. Et enfin, certaines personnes sont susceptibles de déclencher des réactions allergiques. C'est assez charmant. Alors, comment expliquer ces mauvais résultats ? Eh bien, à la décharge du comité d'organisation, la qualité de l'eau souffre du mauvais temps qui favorise le ruissellement, brasse énormément de déchets dans l'eau, ce qui nuit tout ça fortement à sa qualité. Et les ouvrages structurants du plan baignade qui améliore le fonctionnement du réseau d'assainissement par temps de pluie seront mis en service en avril et en mai. C'est ce qu'a assuré la région auprès de l'AFP. Si on y ajoute le beau temps et un débit d'eau plus faible, il se pourrait que la Seine soit effectivement bonne pour la baignade. Alors on verra ça, bien sûr. Ça va être assez intéressant, mais effectivement, pour l'instant, on a quand même quelques doutes et puis on a quand même quelques suspicions de risque pour les athlètes qui devraient se baigner dans la Seine. On suivra ça, bien sûr, parce qu'on sait très bien que les médias vont s'intéresser à ce sujet-là. Ça fait un petit débat qui va également dériver du point de vue politique, bien évidemment. Chacun va utiliser ça. Ça, c'est le premier article. Deuxième article, essaye de répondre à la question de savoir si les Jeux Olympiques de Paris sont vraiment écologiques. Parce que Paris va accueillir donc plus de 800 épreuves sportives, mais aussi héberger plus de 15 000 athlètes. Une telle organisation représente évidemment un coût environnemental important dans un pays qui se réchauffe bien plus vite que la moyenne mondiale. La France est vraiment concernée par le réchauffement climatique et ces Jeux Olympiques se doivent donc de servir de test, mais aussi d'exemple au niveau environnemental. Le budget carbone de l'événement, il est estimé à une somme assez importante. Il y a un chiffre qui est donné. Alors, c'est assez difficile de pouvoir avoir une image, une illustration qui permet de comprendre à quoi correspond 1 500 000 tonnes équivalent de CO2, mais c'est quand même une somme assez importante. Et dans l'ensemble de ces émissions de dioxyde de carbone, il y a à peu près un tiers pour les déplacements, un tiers pour les jeux en tant que tels, et un tiers pour la construction des différentes infrastructures. Des experts ayant travaillé sur la façon de rendre ces Jeux Olympiques plus écologiques se sont exprimés lors d'une conférence qui a été organisé il y a quelques jours. L'énergie représente une part du budget carbone qui n'est pas négligeable et c'est justement la mission qui a été confiée à Frédéric Lebrun qui travaille sur l'enjeu énergétique des Jeux avec des solutions innovantes. Il explique, l'objectif c'est de réaliser Paris 2024 avec un bilan carbone aussi bas que possible. En général, pour alimenter les événements, on utilise des groupes électrogènes, que ce soit pour les festivals de musique en plein air ou les matchs de football dans les stades. Nous avons décidé d'éviter cet usage qui est fortement émetteur de carbone. Les Jeux de Paris vont donc émettre moitié moins de carbone que les Jeux de Londres en 2012. En 12 ans, le monde a changé, l'évolution du climat également, ainsi que les manières de concevoir un événement d'une si grande ampleur. Et donc Frédéric Lebrun explique, les Jeux Olympiques de Londres, donc en 2012, ont consommé 4 millions de litres de diesel. Nous avons donc fait le choix novateur de brancher l'ensemble des sites sur le réseau électrique grâce au support d'Enedis et d'utiliser en complément les énergies renouvelables grâce à notre partenaire EDF. Le choix du raccordement électrique a permis d'éviter l'équivalent de 13 000 tonnes équivalent CO2. Alors, si l'impact écologique du transport de milliers d'athlètes en provenance du monde entier fait débat, le transport entre les différents sites a également été pensé de manière plus écologique. Il y a des véhicules et des bus électriques qui seront présents en masse sur tous les sites. Les 15 000 athlètes et leurs équipes seront hébergés dans le village olympique de Saint-Denis, un site qui s'étend sur 52 hectares. Et ce site a été pensé comme une vitrine des énergies renouvelables. Il y a des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments. Il y a des aérofiltres qui permettent de nettoyer l'air des particules de pollution. Mais la grande innovation de ce village olympique, c'est l'utilisation de la géothermie. C'est un procédé en fait qui permet de récupérer la chaleur, de remonter un petit peu la chaleur qui se trouve dans le sol pour l'injecter dans le réseau. Ça permet de chauffer, ça permet aussi de refroidir avec le système des pompes à chaleur et ça permet de chauffer les bâtiments de manière plus propre. Le village des athlètes fonctionnera donc avec 60% d'énergie renouvelable. Du côté de la piscine olympique, eh bien celle-ci va utiliser plus de 2/3 d'énergie renouvelable, principalement de la chaleur, issue d'un data center qui va être aussi réinjecté dans le réseau. Et on annonce donc pas mal d'économies en termes d'émissions de gaz, de dioxyde de carbone pour le village des athlètes, pour cette piscine olympique. Et bon, il y a toujours la suite de la présentation de Frédéric Lebrun qui explique que nous avons aussi fait le choix de très peu construire. C'est l'un des éléments qui a permis de limiter drastiquement le bilan carbone de Paris 2024. Parce que 95% des infrastructures étaient déjà existantes ou temporaires. Les plus grands bâtiments qui accueilleront des épreuves se doivent d'être novateurs également, à l'image de l'Adidas Arena, 6 700 m² de toiture végétalisée, 1 800 m² de panneaux photovoltaïques. Cet espace a été d'ailleurs pensé en prenant en compte l'augmentation de la température en Île-de-France jusqu'en 2050, que ce soit au niveau des matériaux utilisés, donc ça va être du bois, au niveau des couleurs également, majoritairement du blanc, ainsi qu'au niveau de la consommation en réutilisant la chaleur humaine qui est produite dans le bâtiment. C'est quand même assez innovant et assez intéressant. Et donc Frédéric Lebrun le rappelle, les événements du futur seront différents. Si on peut le faire pour les Jeux Olympiques qui seront le plus grand événement du monde, alors on peut le faire pour d'autres événements. On espère changer l'état d'esprit, aussi inspirer le comité d'organisation futur des Jeux Olympiques d'hiver. Donc voilà les arguments qui sont avancés pour montrer que les Jeux Olympiques seront plus écologiques qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant. Enfin, dernier article, toujours dans Futura, hein, qui voilà un petit peu accumulé les articles autour des Jeux Olympiques, pour nous dire qu'on lançait un peu plus sur les risques de canicule pour les Jeux Olympiques de Paris. Statistiquement, les Jeux Olympiques 2024 ont lieu pendant la période la plus chaude de l'année en France, hein, parce qu'on est entre fin juillet et mi-août. À Paris, la température moyenne de l'après-midi à cette période, elle est de 25 à 26 degrés l'après-midi, 16 degrés le matin. On rappelle quand même qu'il y a des températures extrêmes qui ont été enregistrées ces dernières années fin juillet. On se souvient des 42,6 degrés, c'était le 25 juillet 2019 à Paris. Donc effectivement, on n'est pas dans la période la plus propice, on va dire. Les grandes canicules historiques se sont souvent produites fin juillet, début août. Toutes les dernières canicules qu'on a connues, 2003, 2006, 2018, 2019, 2022, c'était vraiment dans cette période-là. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui explique d'ailleurs que dans le contexte de réchauffement climatique actuel, il est tout à fait possible de connaître une canicule en 2024 avec des températures 4 degrés plus élevées que ce qu'on avait connu en 2003, cette fameuse canicule de 2003 à Paris. Cette année-là, le mercure était monté jusqu'à 39 degrés, mais c'était surtout maintenu à plus de 35 degrés pendant 9 jours. C'était ça, cette grande période de canicule, on s'en souvient, en 2003. Au niveau statistique, le risque de canicule pendant les Jeux Olympiques 2024 est donc important. Les Jeux Paralympiques, vont se produire plus tard, fin août, début septembre, une période moins favorable aux canicules, sauf que la situation a évolué ces dernières années. Et l'année dernière, il y a eu une canicule tardive qui s'est justement produite en septembre avec 35 degrés à Paris en 2023, on s'en souvient peut-être. Il faisait très chaud en septembre et cela peut donc avoir une incidence sur l'organisation des Jeux Paralympique. En ce qui concerne les prévisions saisonnières, les premières données disponibles n'envisagent pas d'anomalies très marquées de température, en tout cas pour le moment. Bon, c'est des informations qui datent de fin avril, donc on est quand même un petit peu trop en avance. Les prévisions à long terme estiment près de la moitié du risque de connaître des températures supérieures au normal en juillet et en août en Île-de-France. Ça veut dire qu'on n'en sait rien en clair. Hein. Ça veut dire qu'il y a moitié de chance d'avoir des températures supérieures. Ok, donc ça nous donne une estimation vraiment très large. Des prévisions sur la moitié nord qui contrastent avec celles de la moitié sud du pays, parce que la probabilité de connaître des températures très élevées est comprise jusqu'à 70%, voire localement plus. Donc on a d'un point de vue statistique, on estime qu'il va quand même faire beaucoup plus chaud dans la moitié sud. Enfin, on a quand même plus de risques d'avoir des températures extrêmes dans la moitié sud cette année. Un peu moins dans la moitié nord, ok, mais cela n'enlève rien au risque de canicule qu'il peut y avoir pendant les Jeux Olympiques. Alors voilà, on est quand même sur des simulations encore et sur des statistiques, mais évidemment on en saura un petit peu plus les derniers jours, il n'y a pas de secret, mais voilà, on est dans une période qui n'est peut-être pas la meilleure, mais bon, quelque part, on n'avait sûrement pas le choix. Allez, on écoute Gossip sur l'antenne de Graphite. Turn the cards. Turn the Car Slowly, c'était Gossip sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Alors on a parlé donc des Jeux Olympiques, mais il y a pas mal d'articles qui traitent de tous les sujets, donc je n'ai pas de fil conducteur pour cette émission. On va, accumuler comme ça les différentes informations scientifiques. Je vais y arriver, pardon, je suis en train de chercher mes pages. La première, c'est ce qui a été annoncé, la sonde Voyageur 1, qui est la sonde la plus éloignée de la Terre. Elle va mieux, 5 mois après qu'elle a cessé d'envoyer des données utilisables à la fois scientifiquement, mais aussi par les équipes des opérations. Je rappelle qu'elle a décollé Voyageur 1 en 1977. Elle est aujourd'hui donc la sonde la plus éloignée de la Terre, elle vogue dans l'espace interstellaire. Eh bien, la NASA a annoncé que Voyager 1 ne parvenait plus à envoyer de données scientifiques ni de données sur son état de santé. C'était en novembre dernier, on en avait parlé dans cette émission. Elle recevait toutefois cette sonde, les télécommandes du laboratoire continuaient de fonctionner normalement. Et au bout de 5 mois d'enquête, les équipes ont réussi à localiser la source du problème, à savoir un des 3 ordinateurs de bord, donc des ordinateurs de l'époque, dont notamment celui qui est en charge de stocker les données avant de les transférer vers la Terre. Alors les équipes, elles ont isolé le code affecté section par section dans un autre espace de mémoire de l'ordinateur de bord. Le travail pour résoudre le problème a été long, parce qu'il a fallu quand même presque une journée pleine pour communiquer de la sonde à notre planète. Et donc, aujourd'hui, Voyageur 1 parvient de nouveau à communiquer sur son état de santé. Les équipes espèrent pouvoir de nouveau recevoir des données scientifiques. Donc elle transmet de nouveau des données vers la Terre, hein, cette vieille sonde de 46 ans, Voyageur 1, qui se balade encore. C'est quand même fascinant. On a conçu dans les années 70 une sonde, on l'a envoyée hop, dans l'espace. Et donc on arrive encore, enfin on espère pouvoir recevoir encore des informations scientifiques de la part de cette sonde avec le matériel de l'époque. Moi je trouve ça quand même assez fascinant. Félicitations, ça fonctionne très bien. Autre information au niveau médecine cette fois, et cette alerte de l'agence UFC Que Choisir, qui a testé 13 crèmes solaires pour le visage, qui sont étiquetés SPF 50 ou 50+, hein, cette crème solaire où on voit le chiffre 50, cet indice 50. Et UFC Que Choisir saisit les autorités pour qu'elles sanctionnent les marques concernées parce qu'elle a constaté qu'un tiers de ces produits n'assurent pas le niveau de protection affiché. Au vu de la forte proportion d'étiquetages potentiellement trompeurs, l'UFC Que Choisir met en demeure les fabricants de rendre leurs produits conformes aux indices affichés ou à défaut de les retirer et se réserve la possibilité d'engager toute action utile en justice. C'est un communiqué qui a été publié il y a quelques jours par l'association qui saisit aussi la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes pour qu'elle sanctionne les marques commercialisant de tels produits, intensifie les contrôles sur les produits de protection solaire et prenne les mesures pour faire cesser ces pratiques. Alors, les indices 50 et 50 plus de ces crèmes solaires sont censés apporter les plus hauts niveaux de protection aux rayons ultraviolets, dont les tests montrent que sur les 13 crèmes testé, il y en a 5 qui ne respectent pas les niveaux attendus de protection solaire. 4 d'entre elles n'atteignent qu'une protection correspondant à un indice 30, hein, selon l'association. Une association qui souligne qu'il est rare qu'elle constate une telle proportion de défaillance et qu'elle provienne de marques aussi bien ancrées dans le paysage que Vichy, Biotherm ou Lancaster. Les 2 autres marques concernées sont Isdin et Rituals. Par ailleurs, l'association presse le ministère de l'Environnement à la nécessité d'encadrer les allégations environnementales pour les produits cosmétiques, car si la grande majorité des produits testés est exempte de composés indésirables pour la santé humaine, une large proportion en revanche, c'est-à-dire 10 sur les 13 qui ont été testés, écope d'une mauvaise note environnementale du fait de la présence de composants ayant des effets nocifs sur les organismes aquatiques. C'est-à-dire que si vous mettez de la crème solaire et après hop, vous plongez dans l'eau, par exemple dans l'eau de mer, eh bien, ça a un impact sur la faune aquatique, bien sûr. Enfin, l'association UFC Que Choisir souligne les prix stratosphériques. Je cite l'agence, le communiqué de l'agence. Les prix stratosphériques des crèmes solaires pour le visage, même pour des marques habituellement peu gourmandes comme Nivea et Yves Rocher, explique ce communiqué. Et donc, au sein d'une même marque, les tarifs au litre des crèmes solaires pour le visage sont au moins deux fois plus chers que les crèmes solaires pour le corps, le plus souvent trois ou quatre fois plus chers, et même jusqu'à sept fois plus chers pour Yves Rocher, car qu'il s'agit aussi d'une crème anti-âge. Donc, oui, parce que comme ça, on fait une seule crème pour tout. Anti-âge, anti-cerne, anti-ride et anti-UV. Mais voilà, donc il y a donc pour l'association UFC Que Choisir une forte proportion d'étiquetage trompeur et donc une mise en demeure des fabricants de mettre leurs produits en conformité et des contrôles plus stricts aussi qui devraient être lancés par la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. C'est un petit peu toute la difficulté, c'est que quelque part on n'a absolument pas d'informations fiables, donc si on ne peut même plus se fier aux indices qui sont sur les crèmes solaires, ça va être un petit peu compliqué, parce que bien sûr il faut se protéger avec ce soleil qui va devenir de plus en plus intense, bien sûr. Autre sujet, alors j'ai aucune transition, parce que donc là on a parlé de la sonde qui a 46 ans, qui se balade encore dans l'espace, on a parlé des crèmes solaires, et là je trouvais cet article assez intéressant parlant de l'intelligence artificielle, parce qu'on en a quand même tellement parlé depuis pas mal d'années de l'intelligence artificielle que là on est en plein dedans, mais on a encore pas mal de nouvelles informations assez, intéressantes, ou en tout cas qui prêtent à réfléchir. C'est ce qu'on appelle un dogfight, c'est un combat aérien où les adversaires se trouvent à proximité et manœuvrent pour échapper ou cibler l'avion ennemi. C'est en quelque sorte Top Gun, nous explique Futura Science, sauf qu'en lieu et place d'un pilote chevronné, eh bien, on a une intelligence artificielle dans le siège de l'un des deux avions de chasse en cours. Ce sont donc des expérimentations en combat qui ont été menées depuis l'an dernier en Californie aux États-Unis. Un exercice de combat entre une intelligence artificielle et un pilote de chasse. L'intelligence artificielle est aux commandes d'un véritable chasseur. Le X-62A, c'est un avion d'essai. Depuis 2020, il y a un combat aérien avec une intelligence artificielle qui avait eu lieu dans le cadre d'un projet, mais à l'époque, l'avion piloté par l'intelligence artificielle était virtuel et s'affichait sur la visière du pilote de chasse en réalité augmentée. Là, c'est plus du tout le cas. Alors, bien sûr, c'est un côté totalement spectaculaire. Le chasseur du futur sera plutôt loin de l'ennemi, parce que là, on est quand même sur des combats rapprochés. Il se trouvera au centre d'un réseau de capteurs accompagnés de drones qui seront spécialisés dans certaines tâches. Le pilote de chasse du 21e siècle ne sera donc plus vraiment censé voir visuellement l'ennemi ni s'y frotter. Mais on a quand même mis en place cet exercice de combat aérien rapproché. Alors pourquoi entraîner l'intelligence artificielle à ce combat aérien rapproché si on considère que ce ne sera pas nécessairement le cas dans la réalité? Eh bien, c'est parce que la pratique de ce genre de combat, de ce dogfight, associe complexité et imprévisibilité. Deux paramètres qui sont quand même très utiles pour tester et entraîner une intelligence artificielle et surtout évaluer la confiance que l'on peut avoir en elle. Également, pour ce type d'entraînement, l'intelligence artificielle doit suivre les mêmes règles de sécurité que les élèves pilote, l'altitude de combat peut descendre à 600 mètres et avec une évolution à 1900 km/h. Malgré ces conditions extrêmes, les règles de sécurité doivent être respectées. Et donc avec cet apprentissage, l'intelligence artificielle suit une formation un petit peu, sa formation d'élite, pour intégrer à terme des drones ailiers de type Loyal Wingman. Les premiers prototypes sont en cours d'expérimentation et l'intelligence artificielle pourrait aussi prendre les commandes d'un avion de chasse, même durant le combat. Cela permettrait au pilote de se consacrer à la supervision de sa mission et de mener la gestion de ces drones ailiers et puis aussi des autres capteurs. Alors, aguerrir l'intelligence artificielle en tant que pilote militaire, c'est tout l'objet d'un programme qui s'appelle Air Combat Evolution. Mais la route du ciel est longue et le chasseur, l'avion d'essai qui a été utilisé, devra donc encore voler de nombreuses heures piloté par l'intelligence artificielle avant de lui décerner son macaron de pilote, bien évidemment. D'ailleurs, durant tous les vols, un pilote se tenait quand même prêt à reprendre les commandes à tout moment en cas de problème. Alors pour le moment, l'intelligence artificielle reste toujours très loin des objectifs de l'US Air Force. Elle repose sur l'apprentissage automatique et son sens de l'air est progressif et doit être fiable. L'algorithme ajuste donc au fur et à mesure son comportement en fonction des données historiques et de ses expériences. L'apprentissage est laborieux, mais doit être aussi parfait que celui d'un véritable pilote. Alors l'idée à terme, c'est qu'elle puisse réagir systématiquement de façon adéquate en faisant les bons choix lors de situations où les règles sont floues et les résultats sont imprévisibles. De fait, tant que cette intelligence artificielle n'aura pas atteint un certain niveau de confiance de la part des humains, elle ne pourra pas les accompagner au combat. Mais les aptitudes au pilotage autonome progressent, puisqu'au cours de 21 vols d'essai, le programme a permis de modifier et d'améliorer plus de 100 000 lignes de code sur les algorithmes. Donc le chemin vers ces ailiers du futur n'est donc pas vraiment pour demain, même si les progrès sont là. En attendant, les tests de cette intelligence artificielle sur cet avion d'essai, le X-62A, ces tests vont se poursuivre tout au long de l'année. Voilà, on est sur... on l'a déjà dit, et là encore, c'est communiqué, donc c'est quelque chose que l'on sait. Donc il y a aussi tout ce que l'on ne sait pas, mais on est quand même sur une application de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Et effectivement, là, on est sur des avancées d'un point de vue technologique, j'entends, assez prodigieuses. Maintenant, d'un point de vue éthique, c'est toujours la même chose. Je vous en parle très souvent dans cette émission. Voilà, on est sur une utilisation d'une technologie qui remplace de plus en plus l'homme. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? L'idée n'est pas de trancher ce sujet-là ici aujourd'hui, mais en tout cas de se poser la question. Sauf que pour l'instant, la technologie avance, les expérimentations se poursuivent. Certaines expérimentations sont communiquées au grand public, c'est le cas ici donc de cet article. Mais on a encore pas mal de flou, de zones d'ombre pour cette utilisation de l'intelligence artificielle dans un cadre militaire. Voilà, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et puis aussi écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite. Dump him like a hero.
afternoon. I'm strung out, mommy. And I can't get away. I'm strung out, mommy. And now it's time to pay.
Alors, c'était qui ? Est-ce que vous avez reconnu la voix ? J'ai vu ça sur la playlist de Graphite. Je me dis, tiens, je vais choisir cet artiste. Il y a longtemps, je ne l'ai pas écouté. C'était Iggy Pop avec Strung Out Johnny. Iggy Pop sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Alors, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec aucune transition, aucun fil conducteur. Les articles viennent comme ça et on parle de pas mal de sujets. Ça peut être aussi intéressant. Et on va parler du moustique tigre. Hein, ce moustique tigre qui tous les ans arrive à conquérir de nouveaux territoires et une fois qu'il est installé en ville, eh bien il n'en part plus. Chaque année, la Direction Générale de la Santé recense la présence de cette espèce invasive sur le territoire français. En 2020, elle était implantée, ce qui veut dire durablement installée et active, c'est-à-dire qu'elle se multiplie, dans 58 départements placés en vigilance rouge. L'année suivante, 2021, c'était 64 départements. Eh bien, le moustique tigre est désormais présent sur tout le territoire français. La Normandie vient de céder face aux nuisibles. À la suite des actions menées sur la saison 2023, c'est-à-dire des enquêtes, prospections, analyses de signalements citoyens, des relevés de pièges, eh bien, l'Agence régionale de santé Normandie confirme pour la première fois l'implantation du moustique tigre dans la région en Seine-Maritime, selon un communiqué donc de l'Agence régionale de santé il y a quelques semaines. Toutefois, aucune transmission locale de maladies liées aux moustiques n'a été constatée en Normandie à ce jour. Présent sur le territoire depuis 2004, eh bien, le moustique tigre, c'est un moustique noir, rayé de blanc, vient d'Asie. Il est le vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Un communiqué de l'entente interdépartemental pour la démoustication du Un communiqué de l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen. Ce communiqué ne révèle rien de particulier malgré quelques spécimens isolés et précoces. Les effectifs augmentent au point d'être visibles à partir de fin avril, début mai. Donc ça y est, on y est. C'est d'ailleurs le 1er mai de chaque année que le ministère de la Santé réactive le plan national dans anti-dissémination de ces maladies et les dispositifs de lutte anti-vectorielle associés. C'est ce que précise le communiqué. Donc on peut d'ores et déjà adopter quelques gestes simples pour se prémunir contre le moustique tigre qui étend son territoire, qui maintenant est présent sur l'ensemble de la surface du territoire français. Et bien voilà, ça y est, on y est. On va dans l'espace avec la Chine. La Chine qui inquiète toujours les États-Unis, notamment la NASA, sur ses véritables intentions autour de son programme spatial. Lors d'un discours à Capitol Hill il y a quelques jours, Bill Nelson, l'administrateur de l'agence spatiale américaine, a expliqué que la NASA pense qu'une grande partie du programme civil chinois est en réalité de nature militaire. Leurs progrès ont été très conséquents en seulement une dizaine d'années, mais tout reste secret, c'est ce qu'il explique. Il y a 2 ans, l'administrateur avait même accusé la Chine d'avoir volé les plans des vaisseaux spatiaux américains via des opérations de cyber-espionnage. Il évoque même une course à la Lune et il souhaite que les États-Unis soient les premiers à y marcher à l'horizon 2030. Autrement, le risque serait que les ressources de l'astre soient exploitées uniquement au profit de la Chine. L'administrateur n'apporte cependant aucune preuve sur les intentions du pays et de son côté, le ministère des Affaires étrangères chinoise affirme que son pays fait l'objet de diffamations et d'accusations qui n'émanent que des États-Unis. Là, évidemment, on est dans une guerre entre les États-Unis et la Chine. Force est de constater que, quelles que soient les intentions chinoises, eh bien, la rhétorique américaine reste offensive, surtout depuis quelques mois. C'est vrai que d'un point de vue spatial, c'est assez violent en termes de communiqué, hein, pour l'instant, entre la Chine et les États-Unis. Donc là, ça se confirme encore avec ces communiqués. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Je veux dire, on le saura plus tard. Hein. On aura vraiment les résultats un petit peu plus tard. Et on suivra bien sûr tout ça sur l'antenne de Graphite. Bien évidemment, vous le savez que je vous ne laisserai jamais. Alors, comme on parle de la Lune, j'étais en train de chercher cet autre article qui parle de l'intelligence des rovers lunaires. Le laboratoire Jet Propulsion, ainsi que le laboratoire qui va travailler dans ce domaine-là, il a terminé, c'est un laboratoire de la NASA, hein, il a terminé l'assemblage des 3 rovers de la mission cadre. Le but de la mission est d'avancer dans la capacité des robots à être autonomes sur la Lune et à ne plus avoir systématiquement besoin des commandes provenant du centre de contrôle qui se trouve sur Terre. L'autre objectif, c'est de réussir à faire rouler ces 3 rovers en même temps. Alors, la mission de démonstration technologique de cette mission cadre vise à donner plus de liberté de décision à ces 3 rovers. Ils exploreront la surface ensemble, ils communiqueront entre eux, ils prendront ainsi des mesures depuis différents endroits. Ce qu'un seul rover mettrait plus de temps à faire, bien sûr, ils sont 3, ça va être plus simple. Selon donc le laboratoire de la NASA, le succès de la mission permettrait de paver une nouvelle voie de l'exploration avec la possibilité de réaliser des distributions de mesures scientifiques et non plus les enregistrés depuis un unique point. Il y a aussi une opportunité d'utiliser ces rovers comme aide aux astronautes à la surface, qui sera nécessaire dans le cadre de missions Artemis plus lointaines. Et enfin, chaque rover pèse seulement quelques dizaines de kilos, fait la taille d'une petite valise. Les 3 rovers seront déposés dans une région lunaire spécifique qui a déjà été définie. Ils seront déposés par un atterrisseur lunaire qui aura donc la mission de les amener et de les déposer sur la surface de la Lune. Les équipes du laboratoire ont effectué de nombreux tests de ces rovers, mais aussi du code de leur logiciel de vol. Les tests ont été faits sur un terrain qui a pu, comment dire, simuler un petit peu le sol martien. On a fait les essais sur Terre, mais on a essayé de se mettre dans les conditions de cette planète Mars. Les rovers ont pu rouler ensemble en formation, ajuster leur plan en groupe, partager les informations du terrain entre eux. Si l'un d'eux tombait en panne de batterie, les 2 autres s'arrêtaient pour attendre qu'ils se rechargent. C'est quand même bien fait. Hein. Sont tous les 3, ils sont autonomes. Enfin bon, ils s'attendent un petit peu les uns les autres. C'est vrai que sur Mars, on est un petit peu seul, donc si on a un qui tombe en panne, on attend qu'il se recharge et ça devrait le faire. Donc voilà, un trio de rovers synchronisés qui va, ce trio, explorer la Lune en totale autonomie. C'est une première pour la NASA qui a donc communiqué cela. Ils vont décoller prochainement à bord d'un Falcon 9 de la société SpaceX. Voilà, c'était de l'espace. Allez, on écoute un dernier titre avant de terminer cette émission sur l'antenne de Graphite. Tiens, là encore, on va se demander mais qui chante ? C'est un groupe cette fois. Ghost Again, c'était Dépêche Mode sur l'antenne de Graphite. Dépêche Mode, Iggy Pop, mon Dieu, ça, je révolutionne la musique sur l'antenne de Graphite. Dépêche Mode sur l'antenne donc de Graphite. Vous écoutez Biotine, c'est bientôt la fin de cette émission. Deux petits articles pour terminer. Alors, on va commencer par celui-ci. D'un point de vue médical, il est connu que les horaires atypiques, c'est-à-dire ceux qui sortent un petit peu du cadre traditionnel, à 9h, 17h, 18h à peu près, ces horaires atypiques peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur vie sociale et familiale. Mais il y a une étude récente qui repose sur une perspective à plus long terme que celle qui existait sur le sujet. C'est une étude qui est menée par l'Université de New York. Cette étude s'est appuyée sur les données de l'enquête nationale sur la jeunesse qui a été réalisée auprès de plus de 7000 Américains. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a été menée sur une période de 30 ans, donc ce qui permet quand même d'avoir un recul et une vision sur l'exploitation des résultats. Cette étude voulait déterminer si la pratique d'horaires de travail atypiques en début de carrière professionnelle avait des répercussions néfastes des décennies plus tard, une fois la cinquantaine atteinte. Il est apparu que la majorité des participants de l'étude faisaient plus ou moins régulièrement des horaires de travail standard. Mais à l'inverse, il y a 17% des personnes qui ont participé à cette étude qui ont travaillé de 9h à 17h quand ils avaient la vingtaine, avant d'adopter des horaires en décalé, des horaires de soirée, des horaires de nuit. Et 12% avaient un schéma d'emploi similaire, c'est-à-dire qu'ils ont commencé leur carrière en exerçant un emploi avec des horaires classiques avant d'être plus flexibles dans l'organisation de leur temps de travail. Donc voilà, il y a eu différents cas qui ont été menés. Et cette étude permet de constater que les actifs ayant exercé des horaires atypiques au cours de leur vie professionnelle avaient davantage de problèmes de santé à la cinquantaine que ceux qui travaillaient à des horaires classiques. Ils étaient plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs à l'âge de 50 ans et ils avaient tendance à avoir un sommeil troublé. Il est intéressant de noter que sur le long terme, les effets néfastes des horaires atypiques ont été particulièrement flagrants chez les actifs qui avaient des horaires de travail stables dans la vingtaine avant d'en changer à la trentaine. Par ailleurs, cette étude permet de remarquer que certaines catégories de la population américaine sont plus exposées que d'autres à ces risques. Les femmes qui travaillaient avec des horaires atypiques avaient davantage tendance à présenter des troubles du sommeil que leurs homologues masculins. Mais ce sont surtout les femmes noires qui souffrent des effets néfastes du travail en décalé. Toute catégorie d'éducation confondue, les femmes noires ayant un emploi de type précoce volatile, c'est-à-dire celles qui avaient des horaires stables en début de carrière avant d'adopter un rythme de travail plus flexible, eh bien, elles sont les plus susceptibles d'être en mauvaise santé parmi tous les groupes examinés. C'est ce que révèle cette étude. Cette recherche montre à quel point les horaires de travail atypiques peuvent peser sur la santé et le bien-être de celles et ceux qui les pratiquent. Les risques qu'ils engendrent sur le plan médical varient en fonction des horaires pratiqués. Par exemple, le travail de nuit pèsera davantage sur la qualité du sommeil que celui qui concerne le travail en soirée ou en week-end. Quoi qu'il en soit, des mesures de prévention doivent être prises au sein des entreprises pour réduire les risques liés au rythme de travail alternatif. C'est une étude assez intéressante parce qu'on est sur du long terme et qui montre bien que travailler à des horaires atypiques nuit à la santé, d'après cette étude américaine. Voilà. Et puis, dernier article de cette émission qui était quand même bien complète. Et ça va être une bonne nouvelle. En 2017, Woolan Pusparani, qui est un spécialiste des tigres, appelait de ses voeux le public indonésien à s'enthousiasmer autant pour la sauvegarde des animaux menacés qu'il l'a fait cette semaine pour la découverte potentielle d'une espèce disparue. Alors, Woolan Pusparani, elle avait raison et tort à la fois. Raison évidemment sur la nécessité de protéger tout l'écosystème indonésien en valorisant le vivant plutôt qu'en fantasmant sur le disparu. Et tort puisque contre toute attente, la grande saga du tigre de Java pourrait bien ne pas être terminée. Elle était considérée comme officiellement éteinte en 2008. 30 ans après sa dernière observation, cette sous-espèce aurait été vue en 2019 dans un village à l'ouest de Java. Un énième signalement accompagné cette fois de preuves. Il y a des analyses génétiques qui ont été est menée en 2022 sur un poil prélevé au village qui ont en effet été révélés ce mois-ci. Les résultats montrent des similitudes génétiques troublantes avec cet animal, hein, le tigre de Java. La distance génétique entre le poil qu'on a récupéré et un spécimen de musée du tigre du Java, eh bien, la distance génétique, donc en fait, le fait qu'on soit vraiment très proche, ça se confirme. Des résultats qui font du propriétaire de ce poil un spécimen du même groupe que l'espèce qui a été portée disparue. Cette découverte suscite un peu l'espoir chez les chercheurs et les responsables gouvernementaux qui envisagent des mesures de conservation supplémentaires avec l'installation de pièges photographiques et aussi faire des recherches génétiques approfondies. Reste qu'aucun nouveau spécimen n'a été observé par les différentes instances scientifiques, ce qui pousse quand même les scientifiques à rester prudents. La survie de l'espèce, si elle est avérée, elle ne tiendrait qu'à un fil et sa conservation relèverait du morceau de bravoure, d'où la nécessité de mener davantage d'études sur le terrain pour confirmer la présence continue de l'espèce et mieux comprendre les menaces qui pèsent sur elle, notamment le braconnage et la déforestation. Mais donc voilà, un animal qui était supposé disparu a été repéré et les scientifiques en ont donc une preuve. C'est ce signalement de ce tigre du Java qui a été constaté dans un village de l'île indonésienne. Des analyses génétiques qui viennent d'être publiées que maintenant, hein, c'est des analyses qui datent il y a quelques années. Les résultats sont étonnants. Affaire à suivre, bien sûr, mais le tigre de Java serait peut-être encore présent. Ben, c'est sur cette information plutôt optimiste que nous allons nous quitter aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'était Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous continuez à nous être fidèles et à continuer à écouter toutes les émissions de Graphite sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.